Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, nous allons continuer, peut-être achever, j'espère, la question des hallucinogènes. Alors, pour les curieux insomniaques, je vous recommande d'avoir éventuellement des saines lectures, qui est un bon somnifère, et qui, à tel point qu'il devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Donc, de préférence par chèque. Ça simplifie les transactions et c'est 7 euros. Avec ça, vous avez de quoi retrouver ce que je vous raconte et puis des compléments et la biblio, etc. Donc, la semaine dernière, nous avons vu la première famille des hallucinogènes. Donc, cette famille du THC, c'est-à-dire des cannabinoïdes. Et il nous reste deux familles, une qui n'est pas très très longue à traiter, et puis une autre qui est une super famille, et donc la troisième. Donc, voilà, donc cette deuxième famille, ce sont des hallucinogènes qui sont apparentés alors à un neuromédiateur que vous connaissez si vous m'avez suivi déjà depuis quelque temps, c'est la noradrénaline. Donc, cette substance, elle est en fait découverte dans le cactus mexicain que les Indiens d'Amérique appellent le peyote. Voilà. Et donc, dedans, il y a un principe actif qui est issu surtout des mescales. Et mescales, c'est justement des bourgeons de ce cactus. Ça fait une boule et puis il y a plein de bourgeons. Et là, c'est bourré de la substance hallucinogène. Comme ça provient du mescal et que c'est une amine, on ne s'est pas tracassé pour trouver son nom, quoi. C'est la mescaline, tout simplement. Alors voilà le mescal, là, donc. Et donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est vraiment le principe actif essentiel, qui a pu être isolé, purifié, et donc une fois qu'il est purifié, il n'y a pas trop de difficultés à être un bon hallucinogène. Bon hallucinogène, ça veut dire, pour moi, dans mon esprit, que c'est possible d'en prendre une petite quantité, et puis d'avoir ce qu'on appelle un « trip », entre guillemets, hein. Et la caractéristique de la mescaline, c'est qu'on a presque l'impression qu'on peut presque maîtriser les hallucinations. Voilà, c'est-à-dire on peut dire « Oh là, ça suffit !» Et à ce moment, les hallucinations s'estompent. Et puis, « Oh tiens, je repartirai bien !» Et voilà, c'est très différent d'autres qu'on verra par la suite. Je vous expliquerai ça. Donc, le cactus en question, c'est l'Ophophora williamsi. Et donc, comme on a pu isoler la mescaline, ça c'est un travail de chimiste, bien entendu, on s'est aperçu assez vite que sa formule ressemblait étrangement à un neuromédiateur qu'on avait découvert peu de temps avant, et c'est la noradrénaline. Et puis, deuxième constatation, eh bien, c'est qu'il y a une grande parenté avec autre chose qu'on a vu il y a longtemps, ce sont les amphétamines. Alors bon, ben tiens, les amphétamines donnent des hallucinations, mais donnent des grandes excitations, contrairement à la mescaline, qui, elle, donne beaucoup plus d'hallucinations, très facilement, et puis pas d'agitation, même plutôt, ça incline plutôt à la méditation. Et puis, alors bon, ben, si on continue dans le sillon de la chimie, puisque un petit peu la pharmacologie, c'est quand même un petit peu de la biochimie, et donc j'en profite cette fois pour faire un petit peu de biochimie, on s'est aperçu que si on rajoutait une oreille au Mickey, c'est-à-dire un groupe méthyle, tout simplement à la substance qu'on avait isolée, alors à ce moment, l'activité hallucinogène, avec simplement un groupe méthyle, et un groupe méthyle, c'est un carbone avec trois hydrogènes simplement, CH3. Eh bien, l'activité hallucinogène était 50 à 100 fois plus supérieure. Donc, du coup, bon, là, tout de suite, on se dit, bon, c'est pas loin des amphétamines. Si jamais on rajoute juste un tout petit soupçon de la chimie organique, la chose la plus simple possible, ce groupe méthyle, vraiment ça décolle à une vitesse incroyable. Et donc, bien entendu, dans cette lancée, on a fait la synthèse d'un certain nombre de produits, c'est-à-dire, pour un chimiste, c'est assez simple, on fait ça à la volée, et puis après on teste, des fois sur les animaux, puis des fois, comme on le verra, par inadvertance, sur le chimiste. Quoi. Voilà. Alors là, on a obtenu plusieurs produits, dont deux qui sont assez exceptionnels, c'est le DOM, d'une part, déoxymescaline, pour faire simple, et puis le DOAT, je ne sais plus exactement, ça doit être l'éthyl, tyramine, mettons, dioxyde, éthyl tyramine. Et alors, la caractéristique de ces produits chimiques, c'est qu'ils agissent à une dose presque infinitésimale, et que la durée du trip est non plus de 6 à 8 heures, comme avec la mescaline, ou éventuellement 10 à 12, selon la dose ou selon les sujets, mais alors là, c'est plutôt, plutôt une semaine, si vous avez été très très modeste, et plutôt un mois ou deux. Voilà. Et d'après les témoignages, au bout de deux mois, vous n'en pouvez plus tellement c'est trop, quoi. C'est trop de bonheur, quoi. C'est comme le malheur, on s'y habitue pas, quoi. Et alors, il y a une deuxième chose, c'est que de temps en temps, comme bien sûr nous avons des enzymes qui dégradent les toxiques, regardons le jargon médical, bien entendu, on arrive à décrocher ce DOM ou ce DOAT de son récepteur. Alors du coup, on réatterrit, on revient à une perception, puisqu'on est au niveau des perceptions, là, c'est-à-dire on reperçoit la réalité comme d'habitude, comme à jeun, quoi, en gros. Et puis, la caractéristique des hallucinogènes, c'est aussi de temps en temps de donner des flashbacks, c'est-à-dire finalement de repartir dans le voyage, et ce voyage est tout aussi long. Et alors, d'après donc les gens qui ont utilisé ces substances, c'est épouvantable de ne jamais savoir si on est dans la réalité ou si on est dans l'imaginaire, et que du coup, ça c'est tuant, paraît-il. Voilà, alors c'est pour dire que l'excès en tout est assez désagréable. Alors, restons avec notre mescaline. Donc voilà la molécule. Donc, comme vous le voyez, c'est assez simple. Un cycle benzénique, on va voir. Un groupe éthyle, finalement, là voilà, là, CH2, et puis NH2, là voilà, l'amine est ici, en quelque sorte. Et puis, voilà, là, un groupe méthyle, alors voilà, quand je vous disais simplement un groupe méthyle augmente l'activité, c'est incroyable. Un groupe méthyle, mais lié avec le cycle benzénique qui est ici, par un oxygène. Donc c'est un groupe méthoxyle. Bon, et puis il y en a trois. Voilà, alors donc ça fait un Mickey avec trois oreilles, mais bon, c'est assez simple. Alors, dernière chose qui est donnée ici, vous rappelez les petits losanges, c'est la dose active pour donner les hallucinations. Donc là, d'après Hoffman, qui avait fait un article de synthèse il y a fort longtemps, c'est entre 200 et 500 mg. Voilà, c'est-à-dire, le dosage à peu près, donc on peut prendre la moyenne, 350 mg pour faire simple. Alors, donc on va essayer de voir, donc je vous ai dit l'amphétamine, regardez comme c'est proche, je ne sais pas si vous avez la vision photographique, un cycle benzénique, encore un CH2 et puis un groupe méthyle, voilà par exemple. Voilà, le CH2 ici, puis un groupe méthyle, là, et puis à nouveau notre amine, là, c'est très très proche, je reviens en arrière, c'est très très proche de... alors, il n'en fait qu'à sa tête. Non. Voilà, c'est très très proche, regardez, toujours notre groupe méthyle, là on a le méthoxyle, là on a la queue de la comète, en quelque sorte. Si je reviens à l'amphétamine... Voilà, donc il manque les trois oreilles qui sont ici, et puis là on a, au lieu d'avoir de l'hydrogène sur le carbone, on devrait l'avoir ici, on a ce groupe méthyle, eh bien à ce moment, ça vous donne l'amphétamine, mais à ce moment, la dose active est de 10 mg. Voilà. Donc ça veut dire qu'en changeant pas grand-chose sur la molécule, on arrive à avoir des effets de 350 à 10, qui sont assez étonnants. Alors voilà, comme vous rappelez peut-être pas dans la légende, quand on a cette petite marguerite là, ça veut dire que c'est un produit de synthèse. Donc c'est tout à fait artificiel, mais il n'empêche que c'est quelque chose que vous reconnaissez, même si le méthoxy était là pour la mescaline, qu'ici c'est un groupe éthyle, mais qui a remplacé le groupe méthoxy, et le groupe méthoxy ici est stable, et puis ici c'est à peu près la même chose, mais à ce moment, à ces modifications près de la molécule de départ, on a un dosage de 5 mg simplement. Voilà. Donc on voit qu'en changeant quelques petites babioles, on va avoir une efficacité de plus en plus forte. Et donc on va pouvoir en tirer quelque chose sur l'activité hallucinogène, bien sûr. Alors, donc comme je vous l'ai dit, cette molécule de mescaline ressemble étrangement à des neuromédiateurs que l'on connaît bien. C'est en l'occurrence la noradrénaline que vous avez ici. Donc ici, là, voilà. Donc le cycle benzénique, voilà la queue avec la fonction amine ici. Et puis ici, simplement un groupe OH, et là encore un groupe OH. Hein. Là, ça c'est de l'oxygène, ça c'est de l'hydrogène. Voilà, c'est tout. Donc ce sont des radicaux, des substituants qui sont quand même pas très très différents. Voilà, donc on va essayer d'expliquer ça. Alors l'adrénaline que tout le monde connaît, ou en tout cas connaît le nom, en fait c'est le produit de dégradation de la noradrénaline. C'est-à-dire finalement pour tout simplement pour désactiver la noradrénaline qui est un neuromédiateur, l'organisme a un système, c'est de lui mettre un capuchon pour bloquer cette fonction amine. Voilà, on remplace un hydrogène qui est ici par un groupe méthyle. Donc à ce moment, ça paralyse ce messager chimique et qui donc va pouvoir être éliminé. Donc voilà, la mescaline a quelque chose à voir d'assez proche avec ce noyau, ce cycle benzénique. Et donc, bien entendu, on commence à gamberger dans les années 60, finalement. Hein. C'est là que le grand essor des monoamines, là on commence à connaître le métabolisme de ces neuromédiateurs et de ces monoamines. Et là, vous avez une chaîne qui vous permet de comprendre un peu comment nos neurones s'y prennent pour fabriquer de la noradrénaline. Et puis beaucoup d'autres éléments, donc je vous le donne très brièvement. Donc la première chose, c'est que pour fabriquer ces monoamines, comme la noradrénaline, eh bien, on prend simplement les aliments et on découpe finalement ces aliments, en particulier les protéines, on découpe les acides aminés. Et parmi les 22 acides aminés que l'on consomme, que l'on utilise, il y en a un qui s'appelle la tyrosine. Alors voilà la tyrosine, voilà, c'est un cycle benzénique avec un groupe OH ici et puis une petite queue ici. Donc la fonction acide, la fonction amine, c'est bien un acide aminé. Au sein du neurone qui peut utiliser donc ce précurseur, cet acide aminé qui nous est donné par l'alimentation et donc par le sang finalement, eh bien nous avons dans le neurone des enzymes qui vont être capables de modifier un petit peu cet acide aminé, tyrosine. Et cette enzyme, c'est la tyrosine hydroxylase, qui va permettre, cette fois, d'implanter un groupe hydroxy, sur la tyrosine. Voilà, alors, donc là, vraiment, c'est exactement la même chose que lorsque vous jouez au petit cochon. Dans le premier temps, il faut récupérer le corps du cochon, puis ensuite une oreille, puis deux, puis une patte, puis deux, puis trois, puis quatre, puis la queue, et après, bon, vous pouvez faire d'autres choses. Ben, c'est la même chose. Les enzymes repèrent la structure, puis disent « Ah, tiens, là, je lui verrais bien une oreille. » Et voilà, on a donc quelque chose qui est nouveau, c'est le dihydroxyphénylalanine, tout simplement parce que la phénylalanine est aussi un acide aminé qui provient aussi de l'alimentation, mais elle, cette phénylalanine, elle n'a pas de groupe hydroxy. Donc, ici, on a un groupe hydroxy, comme vous le voyez, et là, on en a deux, d'où le nom de dihydroxyphénylalanine. Alors, comme ça, c'est un peu long, eh ben, en chimie, on a tendance à compacter, et donc, on prend juste l'acronyme, et ça vous donne la DOPA. Voilà. Alors, tous les gens connaissent le nom de DOPA. Alors déjà, on entend dopage un peu, mais c'est un dopage un peu spécial. Voilà. C'est pour les gens qui n'ont pas de chance et qui ont en quelque sorte plutôt le syndrome de Parkinson, la L-DOPA. Donc, cette DOPA, eh bien, elle continue bien entendu à être prise en charge par d'autres enzymes, et en particulier une enzyme qu'on appelle la DOPA décarboxylase. Voilà, alors vous avez déjà repéré que toutes les enzymes se terminent en chimie par le terme ase, comme diastase, et donc du coup, tyrosine hydroxylase, c'est l'enzyme qui est capable de rajouter un groupe hydroxyle à la tyrosine, et là, la DOPA décarboxylase, c'est l'enzyme qui est capable d'arracher un groupe CO, CO2 même, dans son sens, à la DOPA. Alors, c'est assez simple. Où est ce CO2? Ben, le voilà, il est là, c'est la fonction acide, COOH. On arrache ce CO2, reste cet hydrogène qui vient à ce moment se placer ici, et ça vous donne une erreur, là, dans l'écriture, là, au passage. Cet hydrogène vient ici, donc c'est pas écrit comme ça, c'est CH. CH, ça peut pas être autrement que CH. Donc, il faut pas garder ce 2, CHNH2, voilà. Et à ce moment, c'est plus un acide aminé, c'est une amine, et comme elle provient de la DOPA, eh ben c'est la dopamine, voilà, tout simplement. Voilà. Et la dopamine, c'est justement le neuromédiateur qui permet à tout un chacun, nous en gros, d'avoir des mouvements assez souples, fluides, et lorsque on a un souci avec la substance noire qui produit cette dopamine, alors à ce moment, les mouvements automatiques ne sont pas fluents et ne peuvent pas se couler très facilement, et ça vous donne les tremblements et tout un tas de soucis. Ça, c'est le début de la maladie de Parkinson. Voilà, donc bien entendu, au passage, la stratégie pour aider les malades, eh bien, c'est de renforcer les neurones à dopamine qui sont encore vaillants en les bourre de DOPA, ce qui permet de compenser les pertes, en quelque sorte. Bon, mais je referme la parenthèse. Donc, nous avons donc ce neurone qui a fabriqué de la dopamine. Eh bien, nous avons encore une autre enzyme qui s'appelle la dopamine bêta-hydroxylamine, et qui est capable, cette fois, de repérer cette structure, ici, donc la dopamine, et puis de lui rajouter un groupe OH. Voilà, alors à ce moment, c'est ça la noradrénaline, en quelque sorte. Et puis, si on pousse un tout petit peu plus loin, vous avez encore toujours une enzyme, qui est toujours ici au bon endroit, et qui est capable de repérer cette noradrénaline, et puis de la désactiver en lui mettant un cabochon sur une fonction qui est active, le groupe méthyl. C'est une méthylation, en quelque sorte, et ça donne l'adrénaline. Et l'adrénaline, on en trouve de très très grandes quantités dans les urines, surtout dans les états de stress. Voilà, et c'est pour ça qu'elle est célèbre, une décharge d'adrénaline, ça veut dire que vraiment on a un stress intense. Mais ça, c'est un marqueur de l'état de stress. En fait, c'est la noradrénaline qui est elle, vraiment active. Et bien entendu, cette noradrénaline, son grand intérêt, c'est lorsque donc on est en état de stress ou de je ne sais quoi, d'angoisse ou autre, eh bien on a une hypervigilance. Voilà, on est très attentif à tout, comme un paranoïaque en quelque sorte, et donc le moindre mouvement, le moindre bruit inquiète tellement qu'on est très très attentif, et donc voilà, ça permet éventuellement de repérer quelque chose qui pourrait atteindre notre survie. Voilà. C'est-à-dire c'est une hormone qui nous permet de survivre. C'est-à-dire au lieu de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sable, on regarde attentivement, j'ai vu une forme, est-ce que c'est un rat, est-ce que c'est un serpent, je ne sais pas, et puis ça. Et puis on dit, ah c'est un serpent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui cogne dessus ou bien est-ce que je m'enfuis? Ben pour ça, il faut bien entendu mettre en action toute la musculature, et donc il faut être prêt au combat ou à la fuite, quoi. Enfin, c'est dans cette logique là que l'on peut voir un petit peu la noradrénaline comme étant une hormone du stress en quelque sorte. Donc bien entendu, ça laisse entendre que cette noradrénaline, qui a beaucoup de ressemblance avec la mescaline, eh ben elle a aussi un impact sur la vision. C'est-à-dire, elle est en fait connectée avec la dopamine et puis encore avec d'autres neuromédiateurs qui expliquent que pour notre vision des couleurs, nous avons besoin de la noradrénaline et également de la dopamine, et que donc, bien entendu, si la mescaline vient modifier un petit peu les récepteurs de cette noradrénaline, parce que c'est là qu'ils vont venir, hein, bien sûr, eh bien, on va avoir des perceptions qui vont être un peu différentes, puisque la molécule est différente. Voilà, c'est l'idée essentielle à conserver. Alors voilà, par exemple, là, on a une modélisation du récepteur bêta-3 adrénergique, c'est-à-dire la noradrénaline. Elle vient se loger dans ce site-là. C'est un site récepteur, comme on l'avait vu l'année dernière avec le GABA, comme on le voit toutes les années, en quelque sorte. Et bien entendu, selon les radicaux que la molécule comporte, bien sûr, les affinités avec les atomes du récepteur vont être un petit peu différentes, et par conséquent, ça va donner des petites différences sur la vision, et donc sur la vision du monde extérieur. Et donc on va interpréter à ce moment les choses tout à fait différentes. Bon, par exemple, je parle, bon, je vois ces fils là, bien entendu, quand vous êtes sous mescaline, ce sont des lianes, ou ce sont des serpents, ou ce sont des vertères, ou ce sont, je ne sais pas, mais là encore une fois, pas de panique, ça permet à votre esprit de donner du sens à une forme. C'est-à-dire vous avez des perceptions qui sont modifiées et vous injectez du sens, c'est-à-dire bon, c'est quelque chose qui est dangereux, ou bien au contraire, oh tiens, c'est bien, on va pouvoir faire des cordes ou je ne sais quoi, enfin, on va pouvoir tricoter. C'est-à-dire bon, ça révèle votre monde intérieur en fin de compte, hein, puisque vous devez savoir que bon, le cerveau est la machine à traiter les informations, mais il a une quête de sens effréné, et donc en permanence notre esprit essaye de donner du sens à ce qu'il perçoit. Donc du coup, bien entendu, si vous êtes paranoïaque, vous faites des trips complètement angoissants, parano. Si vous êtes bien heureux, vous voyez que du bonheur, quoi, hein, c'est ça, quoi. Bon, alors voilà, hein, j'espère que là c'est à peu près clair, que donc on a des sites récepteurs qui sont formés de protéines en quelque sorte, hein, je ne rentre pas trop dans les détails, mais simplement vous avez la noradrénaline qui est capable de faire des petits ponts là, temporaires, pour pouvoir avoir en quelque sorte les effets biochimiques et électriques qui s'imposent dans le fonctionnement normal. Mais si vous modifiez un petit peu cette noradrénaline en prenant par exemple de la mescaline ou du DOT ou toute autre substance, bien entendu, les effets vont être différents. Exactement comme si, puisque là on est dans le même cas de figure que dont je vous avais parlé, c'est-à-dire la clé et la serrure, en quelque sorte, hein, vous pouvez faire jouer, mais vous avez des postes qui peuvent ouvrir toutes les portes d'un hôtel, mais de la même façon, vous pouvez aussi bidouiller avec un fil de fer, et donc les hallucinogènes, dans ce cas-là, dans cette famille, c'est à peu près ça, c'est-à-dire les effets sont un petit peu différents. Alors, bien entendu, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, alors là, c'est difficile de le communiquer, hein. Alors, il y a deux façons de communiquer, quand même. Quels sont les effets perçus par les sujets? La première façon de communiquer, c'est de regarder quelles sont les œuvres de peinture, en gros, hein, les productions artistiques, de peinture, par exemple, ou de sculpture. Et voilà, par exemple, là, un tapis huichol, c'est-à-dire des Indiens qui vivent au Mexique, et qui sont des adorateurs du peyote, et qui donc représentent ce qu'ils voient, quoi. Alors pour eux, bien sûr, ils y donnent du sens, et le sens, il est en quelque sorte religieux. Voilà. On leur raconte des mythes, et bien sûr, ils projettent un certain nombre. Alors l'aigle royal, le renne qui fait ceci, le je ne sais quoi, le sorcier, le caribou, le je ne sais pas quoi. Enfin bon, peu importe. Tout l'imaginaire se projette méchamment, et donc ils font des tapis qui sont traditionnels. Et donc, presque toutes leurs productions sont toujours imprégnées de ces couleurs, de ces formes. Il y a des caractéristiques, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais là, en l'occurrence, vous retrouvez la structure essentielle qui est le peyote lui-même, quoi. En gros, et ça figure en quelque sorte un dieu de la nature, etc. Puis vous avez les différents sorciers, voilà l'aigle royal, et puis leurs différents animaux, tout le bestiaire est là, et puis les humains avec toute leur mythologie en quelque sorte. Et puis il y aura ça s'appelle création du monde, hein, le tapis en question. Et puis il y a un autre accès qui est indirect aussi, ce sont tous les écrits des écrivains en quelque sorte, qui eux font l'expérience hallucinogène et qui par la plume vous transmettent en quelque sorte leurs sensations, leurs émotions et leurs visions, quoi, et leurs fantasmagories. Et là, je vous donnerai des références. Hein, c'est très facile. Il y a une immense production. Hein, c'est interdit d'en parler. Alors bon, discret, quoi. Mais enfin bon. Voilà. Donc, mis à part l'anthropologie, un petit peu dressé à grands traits, puis je reviendrai par différents éléments, vous avez les expériences littéraires. Alors bon, Jean-Paul Sartre, hein, alors là, je crois qu'il a beaucoup expérimenté la mescaline, je crois qu'il se prenait pour une langouste, il l'explique en long, en large. Un autre auteur, c'est Aldous Huxley. Alors voilà, par exemple, quelques éléments les portes de la perception, qui est un de ses ouvrages où il explique son expérience avec la mescaline. J'ai vu des lumières dorées qui dansaient lentement, ensuite de somptueuses surfaces rouges gonflèrent et s'étendirent à partir de brillants nœuds d'énergie. Alors là, l'énergie, ça vient souvent, hein, mais c'est bon, c'est vrai que ça donne cette impression qu'il y a une énergie. Vous avez l'impression même que c'est une énergie psychique, hein. On peut dire, c'est un peu New Age, hein, mais bon, parce que les New Age se sont beaucoup inspirés, là aussi, de ces questions. Donc, de nœuds d'énergie qui vibraient d'une manière rythmée et continuellement changeante. Voilà, alors ensuite, bien sûr, vous avez Henri Michaud, qui a fait plusieurs ouvrages, dont Misérable Miracle, par exemple, et beaucoup d'autres. Hein, voilà, donc vous pouvez vous y référer. C'est très sympathique, hein, cette famille de, de la mescaline. Alors si vous voulez, ben, laissons-la quand même un petit peu tomber pour la dernière grande famille que j'appelle une super famille, hein, parce que je suis obligé de faire un fagot là, hein, cette fois. Hein. Donc la caractéristique de cette super famille, c'est d'être apparentée à la sérotonine cette fois. Donc un autre neuromédiateur qui est assez contrasté avec la noradrénaline, mais qui est contrasté au niveau fonctionnel, mais au point de vue de la structure, on peut voir encore des analogies. Alors, le point de départ, peut-être de la réflexion de ces recherches hein, de biologie, puis après de chimie et puis de médecine, qui forment l'âme de la psychopharmaco, eh bien, c'était la psilocybine et la psilocine, c'est les deux molécules qui ont servi de point de départ. Et ces molécules ben, sont extraites de champignons, et de champignons, encore une fois, alors là c'est l'Amérique latine hein, qui nous amène beaucoup de choses, des champignons mexicains, et qui s'appellent Psilocybes mexicanum. Voilà. Alors, bon, ben, bien sûr, les termes consacrés, je vous les donner, ce sont des champignons sacrés, bien sûr, hein, c'est-à-dire dans la culture indienne, amérindienne, hein, eh bien, ils connaissent parfaitement leur environnement, et donc, ben, ils ont tout essayé. Et c'est, ben, ça, c'est le lot de l'humanité depuis son origine, c'est-à-dire qu'il faut bien manger, quoi. Et pour manger, ben, il faut faire des expériences. Alors, des fois, les expériences sont fatales, vous mourrez, puis là, ben, il y a une transmission, disant, bon, t'amuses pas à bouffer ce machin, enfin, c'est la fonction des parents, hein, on dit, bon, bah, arrête, tu sais, les petits fruits rouges, ils sont sympas, mais ils sont pas tous bons à prendre, quoi, hein, voilà, alors il y en a certains, alors voilà, les framboises, c'est comme ça, les groseilles aussi. Par contre, si tu t'amuses à bouffer, je sais pas quoi, bon, bah, voilà, hein, mais ça, on a l'impression que ça s'est un peu perdu, là. On va y revenir, mais bon. Eh bien là, pour les Indiens, ben oui, non seulement ils connaissent leur environnement, et puis, de temps en temps, cherchant à manger, ben ils s'aperçoivent que ça calme pas tellement la faim, mais par contre, alors, ça calme d'autres recherches plus mystiques, quoi, en gros. Hein, et donc, ils l'interprètent et ils le transmettent. Alors, à ce moment, ça, c'est... Oui, il y a 2 millions d'années, quoi. Hein, et ça a donné... Deux choses, les chamans qui donc sont à l'origine de la tradition religieuse, en quelque sorte, hein, qui pensent que c'est d'être lié avec l'au-delà. Et puis, bien entendu, pour rester dans la psychopharmaco, ben, ça donne l'origine de la médecine aussi. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des substances qui permettaient d'être des remèdes, et puis d'autres qui étaient des poisons, et puis de jouer avec en fonction de la dose, etc. Et donc là, dans ce type de démarche, eh bien, nos sorciers ou chamans eh bien, appellent ça des champignons sacrés, et qui ont cette forme-là, comme vous pouvez le voir, et ça ressemble assez à des champignons qui se trouvent dans les bois. Quoi. Voilà. Alors, mais bien entendu, si jamais vous allez chercher ces strophariats, je ne sais quoi, alors là, vous avez les farfadets qui vous sautent sur le poil. Quoi, hein. Il n'y a pas mieux à faire, hein. Ça, c'est bien net. Bon, voilà, alors, cette troisième famille, que j'appelle famille psilocybine et compagnie, hein, donc on a les premiers termes, c'est psilocine et psilocybine. Donc ce sont les principes actifs du champignon, Psilocybes mexicanum, que les Indiens appellent Teonanacalt. Alors, dans leur dialecte ou dans leur langage, ça veut dire la chair des dieux, pour vous dire si c'est assez fort pour eux. Donc, bah, bien entendu, il y a beaucoup de substances qui ont été isolées, donc je vais vous donner quelques-unes, l'alarmine, le DMT, ou le méthoxy-DMT aussi, et tous les dérivés, et puis tout un tas d'autres substances qui vont être issues de... un petit peu d'autres plantes que l'on va voir et qui vont aboutir au finish à l'amide de l'acide lysergique et au LSD25. Alors donc de ce packaging là, eh bien ce qu'il faut garder, c'est ce qui est commun, eh bien toutes possèdent toutes ces substances possèdent en leur sein le noyau indole, et ce noyau indole, c'est l'âme d'un neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine. Donc voilà, il y a une fédération autour de ce noyau indole. Alors je vous le montre, ce noyau indole, voilà, là, voilà. Alors un double cycle, un cycle benzénique normal, si j'ose dire, et puis accolé avec un cycle qui est atypique, parce qu'il recèle non pas que du carbone, mais aussi de l'azote, que vous avez ici, là. Et puis, une fonction OH, oxygène, hydrogène, ici. Voilà, ça c'est le noyau indole. Alors on le trouve dans la psilocine, on le retrouve dans la psilocybine, mais il n'y a pas des kilomètres entre les deux molécules, hein, puisqu'ici, cette fonction alcool est remplacée par un acide phosphorique, hein, donc le phosphate finalement. Donc c'est bien sûr le théonanacal, donc tout le champignon peut être consommé, et à ce moment, eh bien, ça ce sont les principes actifs, et qui agissent à la dose de 10 mg. Voilà, donc on est dans la même gamme que les amphétamines. Alors, je vous dirai ce que ça implique, hein, au fur et à mesure. Alors voilà, revoilà la sérotonine, en gros, hein, sa fonction, donc le noyau indole, voilà, donc cette partie-là, avec son azote ici, sa fonction OH ici, et puis sa petite queue là, CH2, CH2, NH2, voilà, c'est donc bien une amine. Alors bien entendu, partout où on trouve ce psilocybes mexicanum, ben on a remarqué, les explorateurs et les évangélistes, hein, ont remarqué qu'il y avait des sculptures un peu partout, quoi, hein, des petites sculptures partout, alors on les appelle pierres champignons, voilà. Alors bien entendu, assez vite, on savait pas à quoi ça pouvait rimer, il y en avait partout, hein, mais vraiment partout au Mexique et au Guatemala. Alors bon, assez vite, on dit, oh, bah oui, c'est une forme phallique, quoi, hein, ça c'est sûr, hein, il va y avoir sûrement une fonction de cet ordre, quoi. Et puis, bien entendu, on a été un petit peu plus loin, et puis dans la connaissance de ces champignons, bon, on s'est aperçu que c'était en fait des champignons, quoi, d'où leur vrai nom, pierre champignon. Et puis on s'est aperçu que ces petites sculptures, donc, bah, étaient toujours affublées de personnages ou bien éventuellement d'animaux. Et donc, bien entendu, peu à peu, on a commencé à comprendre que c'était des animaux sacrés. Bien sûr. Alors, bon, là, vous en avez trois. Il y a un aigle, il y a un homme, il y a un ours ou je ne sais pas quoi. Bon, peu importe. Et puis, il y a celle-ci, là, un champignon de pierre, Maya. Donc 300 avant Jésus-Christ, 200 après, et qui est très spécial. Je vais vous l'expliquer dans quelques temps, mais voilà un petit peu. Ces pierres champignons, donc, ils font 30 cm, quoi, voilà, bon, c'est pas vraiment des godemichés, donc, hein, là, vous avez sextoys, hein. Alors, bien entendu, beaucoup d'explorateurs ont rapporté ces idées, déjà les Espagnols, en somme, puis c'est quand même, dans les années 50-60, qu'on a pris au sérieux ces questions. Et puis là, un des pionniers, c'est Gordon Vasson, qui s'est pris d'engouement pour ce pays et pour ses habitants, et puis pour les coutumes, a recueilli absolument tout, est allé voir les chamans. Et ces chamans, voilà, il a rencontré en particulier une femme qui s'appelle Maria Sabina, et qui était guérisseuse. Voilà, alors dans le terme, c'est curandera, c'est la femme médecin, et qui donc a recueilli et transmis toutes les connaissances sur les végétaux d'une façon générale, et puis toutes les coutumes des rituels religieux qu'il y avait auparavant. Et voilà, là, ben, lui montre tous les champignons en question, et puis ensuite, ben, va pouvoir accepter de lui montrer le rituel, comment on utilise ces champignons. Alors voilà, toujours là, la chamane, là, qui est ici, avec sa brassée de psilocybès, et puis elle fait tout un tas d'incantations, et puis on retrouve finalement grâce à ses témoignages, puisque elle prend les champignons, elle les mange et puis elle explique tout ce qu'elle ressent. Et lui, ben, partage, hein, puisque il est initié en quelque sorte au rituel. Et à ce moment, beaucoup de choses peuvent commencer à prendre du sens, et en particulier le codex aztèque, là, qui est assez ancien, enfin qui est assez l'empire est finissant en quelque sorte. Il n'empêche que on voit. Alors, je me tourne toujours de ce côté parce que j'ai le micro qu'il faut que je garde du coin de l'œil. Donc en gros, voilà, c'est un prêtre en quelque sorte, hein, si on, le chaman si on veut, et qui est en train de manger des champignons. Voilà, il en a un qu'il est en train de croustiller, et puis il en a encore un en réserve, il en faut trois habituellement. Et à ce moment, dès qu'il a commencé à croquer son champignon, alors à ce moment, il y a une divinité, le maître du monde, etc., qui s'approche de lui, puis qui le touche, hein, et qui donc va l'emmener dans un au-delà. Et en attendant, ici, on voit que sur ce codex, il y a trois autres champignons qui sont prêts à être dégustés, là aussi, selon le même rituel. Et d'après les auteurs, ces trois autres champignons sont en couleur verjade. Le verjade a aussi du sens dans leur tradition. Ils sont sacrés aussi. Voilà, donc ça donne un petit peu l'idée de que ce sont des représentations, des rituels de ce champignon sacré, en quelque sorte, avec toutes les conséquences que Maria Sabina a en quelque sorte révélées. Et que donc, du coup, bien entendu, Gordon Basson était en relation avec non seulement les mycologues européens, en particulier Roger Heim, du muséum, et donc il dit, ben écoute, j'ai pris des champignons extraordinaires, dis-moi voir qu'est-ce que c'est, quoi. Et tout de suite, Roger Heim, quand il fait la détermination, il dit, ben c'est Psilocybes mexicanum, quoi. C'est-à-dire, bon, il le connaissait, mais il savait pas qu'il était hallucinogène, et puis, etc., quoi. Il y a comme ça des liens qui sont faits. Alors voilà, par exemple, une terre cuite, où là, ça met en scène justement une femme chamane et les champignons sacrés. Alors là aussi, donc, dans cette culture, il semble que bon, il n'y a pas de sexisme. Hein. Là, les prêtres sont mâles ou femelles, et il se trouve que bon, il n'y a que des reproductions de chamanes féminines. Voilà. Alors, je reviens à la pierre champignon très particulière. Alors là, voilà, ça à droite, c'est Albert Hoffman, dont je vais parler pour le LSD-25, puis c'est lui qui l'a inventé, en quelque sorte. Et bien, c'est lui qui a en quelque sorte, donné la synthèse de la signification de ces pierres champignons. Et donc, voilà, en gros, l'idée que véhiculent ces petites sculptures. Donc, alors, tout d'abord, c'est bien entendu une représentation du psilocybès avec son chapeau et puis le tronc en quelque sorte. Et ce tronc correspond à un axe qui permet le lien entre le socle, c'est-à-dire la terre finalement, hein, vous savez que c'est aussi la terre qui est sacrée en quelque sorte, et puis ça, c'est non seulement le chapeau de psilocybès, mais c'est également la voûte céleste, en quelque sorte. Et que donc, ce tronc de ce champignon, la tige, ben, fait le lien entre le ciel et la terre, et pour que ça puisse s'effectuer, il faut qu'il y ait un sorcier, un chaman, un grand prêtre, que vous voulez, hein, peu importe, qui fasse le rituel, non seulement qu'il lui prenne les champignons, mais également distribue ce qu'il faut selon des rituels. Et bien entendu, donc on reconnaît la figure humaine, et surtout on reconnaît sa coiffe, là. Voilà. Et cette coiffe, eh bien, c'est peut-être plus visible sur la précédente. Je vais essayer de la retrouver. Champignon. Voilà. Oui, voilà, on le voit peut-être mieux, là. Voilà la coiffe. Eh bien, ça, c'est pas autre chose que le soleil. Voilà. Et que donc, du coup, c'est un culte solaire, qui donc amène tout un tas de choses. Dans cette religion, en quelque sorte. Alors, ça, c'était psilocybès. Mais bien entendu, on a à ce moment amassé beaucoup de données. Et voilà quelques-unes de ces données avec, par exemple, ces noms de plantes. Je vais vous les montrer. Ayahuasca, ou plus exactement, en tout cas pour moi c'est plus facile, c'est le yage. Et le yage, ce sont des lianes qui se trouvent, alors cette fois, plutôt en Amérique latine, plutôt dans la forêt vierge, et que les Indiens vont chercher, et ils en prennent les racines, ils font macérer, et ce sont des breuvages. Alors, quand on a, alors ce yage, bien sûr, c'est une plante mythique pour The Beat Generation. Hein, alors, je pense à Ginsberg, qui est allé chercher témoignages, et qui écrivait à Burroughs tout ce qu'il avait trouvé, tout ce qu'il avait fait, etc. Bon, en long, en large. Et donc, quand on a pris le yage et qu'on a cherché quel était le principe actif, en gros, on est tombé sur l'armine. Voilà. Et cette armine, voilà sa formule. Bon, alors, on retrouve à nouveau le noyau indol, ou très très proche, et on s'est aperçu que la dose était entre 300 et 400 mg. Voilà. Alors voilà ces lianes en question, dont on consomme les racines. Voilà les lianes dans la jungle. Voilà. Alors ensuite, à côté de ça, il y a d'autres plantes, et dont le nom varie selon les régions, mais c'est essentiellement le yopo, et qui, finalement, ces plantes donnent des graines, et avec ces graines, eh bien, on en fait une poudre à priser. Voilà, et on les renifle. Et donc, là, à ce moment, ça donne la diméthoxytyramine, si ma mémoire est bonne, ou le 5-méthoxy-DMT, et la dose est aux alentours de 60 mg. Voilà, alors vous retrouvez à nouveau le noyau indol, et puis là vous retrouvez la queue de la sérotonine à nouveau, sans trop de difficultés. Donc 60 pour cette plante. Alors voilà les plantes avec leurs graines, donc l'une et l'autre, bon, peu importe. Bien entendu, quand on prend ces substances, et puis qu'on lui rajoute des éléments, alors à ce moment on obtient des substances artificielles. Alors voilà, DET, DPT, DPT. Voilà, alors cette fois on a rallongé ces oreilles là. Bon, de toute façon on n'arrive pas à bien dépasser la dose de 50 mg d'efficacité. Voilà, l'ensemble là de cette famille, DMT et DET, par exemple, voilà, 60 à 50 mg pour être efficace. Alors, donc, ce qui est clair, c'est que le point commun, c'est la ressemblance avec la sérotonine. Donc, deux mots sur le métabolisme de la sérotonine, finalement. Donc, c'est la même chose, hein, comme toujours, hein, les neuromédiateurs, les neurones sont capables de les fabriquer, mais ils ne les fabriquent pas de rien, ils les fabriquent à partir des acides aminés qu'ils récupèrent via l'alimentation. Et pour la sérotonine, eh bien, c'est le tryptophane qui va être utilisé, et donc le cycle benzénique, voilà le cycle atypique avec de l'azote, là c'est écrit en clair cette fois. Et puis CH2, CH, COH, NH2, donc c'est bien un acide aminé, la fonction acide, la fonction amine, donc c'est l'acide aminé tryptophane. Alors, comme pour les autres chaînes, nous avons une enzyme qui s'appelle hydroxylase, qui va être capable de repérer que ça, c'est bien le tryptophane, et puis va lui incruster un groupe hydroxy, d'où le nom de un semant, 5, c'est la position 5, 5-hydroxy-tryptophane. Voilà. Vous voyez la différence entre ça et ça, c'est uniquement qu'en position 5, sur ce carbone-là, on a un groupe hydroxy. Ensuite, de la même façon que pour la noradrénaline, on a aussi une enzyme qui est capable de repérer la fonction acide et donc d'aller lui piquer le CO2. Donc cette fonction acide qui est ici, l'arrache, l'hydrogène va venir ici, Donc, c'est ce qui se passe. Oui, vous avez NH2 à ce moment. Et donc, c'est salucide, voilà. CH ici. Donc, cet hydrogène vient ici, CH2. Et donc, à ce moment, c'est la 5-hydroxytryptamine, mais la tradition veut que on ne lui a pas gardé vraiment ce nom, on a gardé l'initiale, 5-HT, et que c'est le vieux nom qui est resté, c'est sérotonine. Sérotonine voulant dire que c'était l'amine qui était extraite du sérum, en quelque sorte. D'où ce nom est resté traditionnel. C'est la 5-hydroxytryptamine, en termes chimiques, mais on a le coutume de l'appeler sérotonine ou 5-HT, tout aussi bien. Voilà, donc le CO2 se dégage, est récupéré par ailleurs, et puis la sérotonine vient s'accumuler dans la région présynaptique du neurone. Et si un train de potentiel arrive jusque-là, alors à ce moment, vous avez libération de sérotonine dans la fente synaptique, et à ce moment, on va agir sur le récepteur qui est en face dans la région post-synaptique. Bon, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est assez fastidieux. En gros, ça, c'est le métabolisme de la sérotonine. Donc, ce qu'on découvre, c'est que tous ces hallucinogènes de la troisième famille viennent, en quelque sorte, agir sur les récepteurs de cette sérotonine, en quelque sorte, et que donc prennent la place de la sérotonine au sein du récepteur, mais comme il y a des petites variantes, et bien ça donne des variations sur la sensation visuelle, en quelque sorte, ou acoustique, ou tactile, ou gustative, ou olfactive. C'est-à-dire, ça veut dire que nos sensations vont donner lieu à des perceptions, mais si nous avons des neuromédiateurs qui sont en compétition avec des hallucinogènes, les hallucinogènes viennent prendre la place de ces neuromédiateurs et vont donner des effets différents. Ça va donner des sensations différentes, et par le fait de notre interprétation de ces sensations, ça va donner des hallucinations qui vont être hors de la réalité, ou en tout cas donner une réalité assez différente. Voilà, donc on commence à comprendre qu'il y a toute une chaîne qui se passe dans le cerveau et qui donc vient retentir sur notre façon de voir le monde, d'être au monde, et qui nous bouleverse en quelque sorte. Voilà, alors, j'ai encore une ou deux sur la sérotonine. Voilà, en gros, les zones où la sérotonine agit en grande quantité. Eh bien, si on fait très très simple, voilà, dans le tronc cérébral, ici, dans le thalamus, l'hypothalamus, et puis le striatum, et puis le système limbique, pour faire simple. Donc, si je résume, le tronc cérébral, en gros, ça va correspondre à une modification de la vigilance, de l'éveil, du sommeil, du rêve. Je vous donne une vue tout de suite après. Le thalamus et l'hypothalamus, ça va donc modifier le fonctionnement hormonal, pour faire simple, en tout cas ça va un peu le perturber. Et puis le striatum, là il est fractionné, mais c'est beaucoup plus important. Le striatum, ça veut dire que ça va modifier notre motricité d'une façon peut-être subtile ou un peu plus marquée. Et enfin, dernier élément, le système limbique, là, l'amygdale et l'hippocampe, bien entendu, ça va jouer sur la mémoire et sur les émotions. Et donc, bien sûr, la façon d'être au monde, la façon de nous représenter va être modifiée, disons, pour ne pas rester pas trop moraliste. Alors, par exemple, pour ce tronc cérébral, bien c'est là que l'on a la naissance des principaux neuromédiateurs qui vont se traduire par des états de vigilance bien différents. Alors, je l'ai traité il y a longtemps, mais bon, peut-être que vous ne vous en souvenez pas forcément. D'une part, la noradrénaline va être responsable de l'éveil, ou même de l'hypervigilance, en cas de stress. Et puis, la sérotonine, elle va être plus ou moins le neuromédiateur qui va réguler les quantités de sommeil à ondes lentes, c'est le sommeil, pour faire simple. Et enfin, la dopamine, elle va permettre d'établir le sommeil paradoxal, et donc, le sommeil paradoxal, ça c'est le nom que les Lyonnais ont donné à cet état, et bien là, à ce moment, c'est l'état de rêve, quoi, en gros. Hein. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours du rêve, vous avez une fantasmagorie qui se déploie. En fait, c'est pas autre chose que des hallucinations, mais simplement vous n'en savez rien parce que vous dormez. Mais si vous avez la chance de vous éveiller, c'est-à-dire de passer du sommeil paradoxal à l'éveil, alors à ce moment vous pouvez faire un transfert de votre mémoire à court terme dans une mémoire à long terme, et au petit matin vous pouvez vous rappeler, vous retrouver vos rêves éventuellement, si vous avez la chance de pouvoir vous éveiller. Mais en gros, alors ça c'est archi démontré, dans l'école lyonnaise on s'est polarisé là-dessus pendant 30 ans, c'est sûr que le rêve c'est un état hallucinatoire complet, quoi. Voilà, c'est-à-dire on avait un patient en neuro, il ne faisait pas une goutte de sommeil paradoxal, pas une pique. Tout simplement parce qu'on l'a vu à l'autopsie plus tard, donc il avait un virus qui lui bouffait le locus coeruleus, qui est le point de départ de la dopamine qui permet d'établir le sommeil paradoxal. Donc il n'en faisait pas. Mais qu'est-ce qui se passait toutes les nuits? Il hurlait d'angoisse, tout un tas de choses qu'il voyait, qu'il disait aux infirmières qui passaient. En fait, bon, il passait pour un fou, mais en fait, oui, c'était un fou parce que les rêves sont fous. C'est-à-dire, c'est notre faculté de pouvoir délirer à bloc, tout simplement parce qu'on excite tous les systèmes avec les substances endogènes, et comme on dort, ça gêne personne, quoi. Voilà, hein, et là, il s'est trouvé que ce patient, n'ayant plus de possibilité de vraiment dormir avec son sommeil paradoxal, il l'exprimait. Voilà. Alors là, on a des pleins cahiers, hein, c'est extraordinaire, mais bon, ça correspond à ça. C'est-à-dire, finalement, le sommeil paradoxal, c'est une façon commode de traiter des informations qui étaient passées inaperçues pendant l'éveil, mais en plus, on peut déconner à fond, à fond les caisses, quoi, hein. En gros, il n'y a aucun problème. Et alors, comme par hasard, on retrouve les neuromédiateurs qui sont impliqués dans les hallucinogènes, quoi. Voilà, c'est simple comme bonjour. Voilà, donc c'est assez cohérent. Alors, on va pouvoir pousser plus loin le bouchon, si vous voulez. Hein. Donc, je reprends encore une autre sous-famille qui est assez importante, c'est l'Hololuqui. Donc Hypomea, Violacea et Rivea Corymbosa, et essentiellement on va voir que c'est l'amide de l'acide lysergique. Alors voilà Hypomea, donc planquez vos volubilis, hein, parce que vous allez vous les faire piquer, ça c'est bien clair, hein, les petites graines, hein, bon, ou bien Turbina Corymbosa ou Rivea Corymbosa, c'est l'Hololuqui des Aztèques, qui, là aussi, récupérait les graines, les faisait mariner dans l'eau pendant une nuit, et puis il y avait des breuvages, et ça donnait à beaucoup de choses. Alors voilà, donc on arrive à isoler cette substance. Il se trouve que c'est une alors, c'est pas encore tout à fait une usine à gaz, mais enfin, ça commence à devenir assez complexe. Hein. Voilà, vous retrouvez le noyau indole, là. Vous retrouvez la queue CH2-CH2-NH2, là, même s'il est un peu modifié. Et puis, on a encore complexifié le système. Alors, à ce moment, c'est l'amide de l'acide lysergique. Voilà, l'acide lysergique est ici. Hein. Et donc, je vais dire un petit peu à quoi ça rime. Et la stupeur, on s'aperçoit que là, c'est plus 5 mg, mais c'est 2 mg. Voilà, c'est-à-dire que on était parti de 500 mg, et puis petit à petit, je vous amène sur une position qui est de 2 mg. C'est bien différent, hein, là, déjà. Alors, l'acide lysergique, on s'en sert avec des pincettes, bien sûr, c'est surtout un médicament anti-migraineux, en gros, l'ergotamine, si ma mémoire est bonne, hein, et puis il y a tout un tas d'autres, bon, on va voir. Alors, bien entendu, ça c'était assez intéressant, parce que c'était le plus performant dans les années 60, et puis, bien entendu, arrive quelque chose d'assez extravagant, et c'est ça qu'il faut que je vous raconte maintenant. Alors, ça c'est pour 1939, un jeune chimiste qui s'appelle Albert Hofmann, travaille chez Sandoz, et puis bon, c'est un très très bon chimiste, quoi, voilà. Toute la journée il bosse, il fait des synthèses, voilà, lui c'est son truc, il fait des synthèses, et ces synthèses, à ce moment, il travaille sur la coramine, c'est-à-dire une substance qui soutient le cœur, et Sandoz veut mettre au point un truc qui permette de lutter contre les maladies cardiaques. Voilà. Alors il a un programme, et puis bon, bah, lui, il fait ses synthèses, et systématiquement, il part de produits qui jouent sur le rythme cardiaque, et puis il essaye de rajouter des éléments, voilà, et puis il en a déjà fait un bon paquet dans la journée, d'un certain jour. Et puis, vers 5 heures du soir, il dit, oh là là, je me sens pas bien. Et alors, il finissait à 6 heures. Il dit, oh non, là, vraiment, je vais rentrer parce que je peux plus travailler. Et donc, il part en vélo. Et là, il rentre dans un voyage. Alors là, donc, il serait passé en quelque sorte, parce qu'il est sidéré, parce que ce qu'il ressent, ce qu'il voit, c'est-à-dire, bon, il tripe complètement, il arrive quand même jusqu'à chez lui, se jette dans son lit, et il tripe pendant 8 heures, quoi. Voilà. Et avec un trip pas possible, un voyage, quoi, comme on dit, dans le jargon. Et au petit matin, il n'est pas très frais, mais enfin bon, il fait le point, il a cru mourir, quoi. Et il se dit, bonsoir, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, bah, il dit, ben, j'ai dû me contaminer avec un des produits que j'ai synthétisé, et ça ressemble étrangement à ce que j'ai lu sur la mescaline, quoi. Hein, donc, c'est quelque chose d'approchant. Mais bref. Je vais essayer de m'en sortir, et puis arrivé au labo, ben je vais goûter ces produits, quoi. Faut avoir le cœur net, savoir qu'est-ce que... Non, parce que c'est un chimiste, et il est consciencieux, il veut savoir ce qu'il va fournir finalement à sa boîte, quoi. Alors bon, il fait les calculs. Bon, comme vous rappelez, la mescaline, bon, c'est entre 300 et 400 milligrammes. Il dit, ouah. Doucement, on va prendre 10 fois moins, et comme ça, là, bon, ça devrait aller. Et donc, le 19 avril 1943, donc il a un petit peu de temps, alors il dit, ben, je vais essayer cette journée fameuse, quoi. Il prend son cahier, puis il prend systématiquement 40 milligrammes de chacun des produits qu'il a, jusqu'au dernier, ça ne fait rien du tout. Et puis, il arrive sur le dernier qu'il a synthétisé et qu'il a appelé LSD-25, c'était le 25e essai de sa journée, en quelque sorte, le diéthylamide de l'acide lysergique. Et là, il part dans un trip, c'est pas possible, hein, c'est Apollo, quoi. Hein. Bon, il rentre à nouveau avec son petit vélo, il fait accompagner sa secrétaire, tellement il se sent décontenancé. Puis voilà quelques éléments de son rapport qu'il a fait à sa direction, quoi. Voilà. Dans mon champ visuel, tout vacillait. Les choses m'apparaissaient comme à travers un miroir déformant. En même temps, j'avais l'impression de faire du surplace. Par la suite, mon assistante me dit que nous avions roulé très vite. Voilà, c'est-à-dire, bon, il pense qu'il pédale dans la choucroute, et puis en fait, il trace la route, quoi. Et alors, il allume comme un malade, quoi. Bon, ouais, comme un psychotique, quoi. Hein. Bon, là, c'est trop beau, là, hein. Vraiment, vous l'avez déjà compris. La substance que j'avais voulu expérimenter avait eu raison de moi. Elle était ce démon sarcastique qui triomphait de ma volonté. Une angoisse horrible me prit d'être devenu fou. J'avais débarqué sur un autre monde où les notions de temps et d'espace étaient différentes. Mon corps me paraissait insensible, inerte, étranger. Étais-je dans la mort? Alors, il est complètement angoissé, quoi. Hein. C'est-à-dire, bon, il est dans son lit, ces édredons sur la tête, bon, il pense que c'est ses derniers instants, sa femme n'est pas là, il dit, comment elle va comprendre que je suis mort dans mon lit, machin, et les enfants, et je sais pas quoi. C'est alors que je commençais à jouir du spectacle. Alors, bon, du temps se passe, il sent que ça va un peu mieux, et alors à ce moment, c'est alors que je commençais à jouir du spectacle inouï de formes et de couleurs qui durait encore derrière mes yeux fermés. Aussi changeante que dans un kaléidoscope, des images multicolores, fantastiques, arrivaient sur moi, s'ouvraient en cercle ou en spirale. Puis se refermaient, telles des fontaines de couleurs jaillissantes, s'ordonnaient et se croisaient en un flot ininterrompu. Le plus étonnant, c'est que toutes les perceptions acoustiques, le bruit d'une poignée de porte, d'une voiture qui passait, se transformaient en sensations optiques. Hein, c'est-à-dire les correspondances là, de Baudelaire, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, quoi, hein, ou de Rimbaud, se transformaient en sensations optiques. Chaque son nouveau produisait une image aux formes et aux couleurs nouvelles. Donc là, bien entendu, vous avez toute la pop music qui réplique, là, qui vous explique, et la techno encore plus. Non, bien entendu, si vous êtes sous hallucinogène, vous avez ces correspondances, et donc du coup, boum, 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 mais c'est un kaléidoscope, quoi. Et là, bon, ben, Albert Hoffmann l'a découvert, donc, entre son premier trip, 39 et 43. Le lendemain, un sentiment de bien-être m'enveloppait, comme si une nouvelle vie s'ouvrait à moi. Le monde était comme recréé. Tous mes sens vibraient encore dans un état de sensibilité extrême, perdurant toute la journée. Voilà. C'est-à-dire, bon, un état de béatitude, quoi. Bon, alors, bien entendu, ça fait beaucoup de bruit, quoi, dans le milieu, sans nous dire, bah, non, c'est peut-être à exploiter. Bon, alors, peut-être que pour le cœur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, et encore que, sans dire, ouais, mais alors, par contre, peut-être qu'on pourrait élargir les champs de conscience. Et alors, bien entendu, c'est tout le mouvement hippie qui va s'en emparer, et puis, bon, on va voir ça. Alors, bien entendu, comme il a fait la synthèse, ben, bien sûr, il est pur, quoi. Hein. C'est ça qui est bon. Hein. En plus, en s'appelant sans dose, je peux vous dire que ça, c'est déjà quand même assez bien. Et donc, voilà la structure. Donc, c'est le diéthylamide de l'acide lysergique. Et quand il fait les essais cliniques, donc... il s'aperçoit qu'il a pris 40 mg et qu'en fait la dose efficace c'est 0,05. C'est-à-dire il s'est pris une claque comme c'est pas possible, quoi. Et ça à deux reprises. Hein, parce que, alors bon, la deuxième fois c'était beaucoup plus fort. C'est-à-dire la première fois c'était juste une petite goutte de je ne sais quoi qui l'avait contaminé. Mais la deuxième fois c'est incroyable. Alors quand on va vous dire que le LSD et toutes les autres substances démolissent le cerveau, ben, vous pouvez douter. Parce que là, on a la meilleure preuve que si ça vient de chez Sandoz, il n'a pas bronché, hein, le père Albert. Hein. Il est resté chez Sandoz jusqu'au bout, il est mort il y a 2 ans. Hein. Et donc, vous voyez qu'il a travaillé depuis 1937 à 2000 et quelques. Quoi. Il est mort à 85 ans, je crois, la mémoire est bonne. Donc là, son cerveau reste entier. Et puis alors, je peux vous dire que il a continué à triper, bien entendu. Ça, c'est bien clair. Et qu'ensuite, il est parti en Amérique et que non seulement il faisait des conférences, mais en plus, il allait voir les chamans et que, bon, il n'a pas arrêté, quoi. Hein. Et que donc, du coup, c'est des conneries, quoi, hein, de vous dire que ça vous détruit le cerveau. Ben oui, si c'est de la strychnine, oui, ça vous détruit le cerveau, oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est-à-dire, si on laisse les margoulins s'installer, bien entendu, c'est tout à fait différent. Mais, bien sûr, là, ça s'est su très vite, et alors ça a fait une traînée de poudre en Californie, et donc tout le monde était blindé, quoi, hein, et du coup... Et alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit la fois précédente, il ne faut pas avoir une structure pré-psychotique, quoi, hein, parce que sinon, ben, là, les hallucinations, elles arrivent à gros bouillons, et alors ça a amené des catastrophes, et donc du coup, les États-Unis, enfin, la FDA et tout le reste, le FBI était sur les dents et donc a établi une législation pour empêcher que ces expériences puissent se faire. Mais ça n'a pas empêché la CIA de dire, putain, là on a un super truc, le jour où on peut mettre du LSD dans les citernes d'eau de nos ennemis, là ils vont triper comme des fous, puis comme c'est peace and love, là on peut leur rentrer dedans sans aucun problème, voilà. C'est-à-dire, bon, il y avait le biface, hein, là. Hein. Donc, voilà, alors, donc, vous avez compris que là c'est du dur. Hein, c'est-à-dire 0,05 mg pour agir, donc des microgrammes en quelque sorte. Et donc là, c'est assez étonnant. Alors, je vous redonne l'amide de l'acide lysergique, 2 mg, et puis le diéthylamide que vous avez là, hein, diéthylamide, voilà, là. L'éthyl, c'est ça, il y en a deux, donc c'est le diéthylamide de l'acide lysergique qui est ici, 0,05. Ben, par essai, par erreur. Bon, 40, il avait compris que c'était l'Himalaya. Donc, il a dit, bon, ben, c'est pas 10 fois moins, c'est 1000 fois moins. Et puis, après, bon, ça donnait des tripes pas possibles. Donc, ben, on redivise par 100. Et puis, quand il n'y a plus rien, comme en homéopathie, ben, on remonte un poil, quoi. Hein, c'est-à-dire, bon, 9 CH, quoi. Bon, c'est assez simple, quoi. Alors bon, donc comme il travaillait sur les problèmes cardiaques, machin, bon, il était pas naïf, hein, et tout de suite ça lui a évoqué quelque chose qui avait été bon, un drame. Alors je ne sais pas si vous en rappelez de ces cas. Ah, non, vous, ben, oui, tout le monde ne veut pas s'en rappeler. C'est le coup de Pont Saint-Esprit. Alors, bien entendu, Pont Saint-Esprit, c'est déjà un nom assez prédestiné, quoi. Alors, c'est 1951. Voilà, alors, 1951, il y a un scandale à Pont Saint-Esprit, c'est épouvantable, c'est qu'un boulanger fait du bon pain, et ce bon pain est à base de seigle. Pas de peau, 1951, c'est une année pluvieuse. Voilà. Et qu'est-ce que ça implique, que l'année soit pluvieuse? Ben, on craint beaucoup pour le seigle. Et le seigle développe un petit champignon qui s'appelle Claviceps purpurea et qu'on appelle l'ergot de seigle. Voilà, l'ergot comme un ergot de coq, là, hein, le truc. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, mais on va le voir. Oh, oui, on le voit ici, là, voilà. Voilà, quand c'est très humide, ce champignon se développe. Alors voilà, il amène ça au labo, il dit, mais bonsoir, ça ressemble étrangement. Et ça ressemblait étrangement par des hallucinations qui n'en finissaient plus. Les gens étaient fous, en quelque sorte, étaient traités de fous. Et ça lui évoquait ce qui venait depuis le Moyen-Âge, et qui était dû aussi à ce pain contaminé par l'ergot de seigle, et qu'on appelle les tentations de Saint-Antoine. Alors, je vous montre les images. Les voilà. Alors, c'est-à-dire, ce pauvre Saint-Antoine s'est retiré dans un désert. Il a juré d'être pauvre, d'être abstinent, d'obéir à je ne sais qui. Et là, vous avez les diablotins qui viennent et qui lui font subir les pires supplices, hein, les tentations, quoi, hein, vraiment. Toutes les perversions sont à l'ordre du jour. Voilà d'autres représentations. Hein, voilà ces diablotins qui lui font vraiment subir tous les outrages, en quelque sorte. Et alors, après le Pont Saint-Esprit, on a compris que finalement c'était une contamination du pain, et que donc, voilà, alors. Donc, ça c'était ça permettait de comprendre un peu ce qui se passait chez nous il y a fort longtemps déjà, et ce LSD, ben, a été finalement divulgué par des ampoules de 100 doses, et qui ont été distribuées, vendues plus exactement, en grande quantité. Mais la dose étant tellement petite que ça tenait sur une micro-goutte d'un papier buvard, et là, des timbres. Alors voilà, j'ai trouvé une petite reproduction. Vous avez, pour avoir l'échelle de ces petits timbres qui sont gros comme un petit ongle, hein, vous avez un dollar là qui est ici, vous avez la pointe d'un stylo, et donc ben, c'est une petite figurine là, Vous mettez ça dans la bouche et puis bon, vous avez vos 0,05. Quoi. À l'époque, dans les années 70, bon, il n'y avait pas un festival pop, il n'y avait pas une cargaison de ces petits timbres. Hein. Ça, bien sûr, vous étiez complètement timbré très facilement. Et donc... Pardon ? Ah ben, commercialisé, parce que ça, il y avait beaucoup d'amateurs, quoi, hein. C'est comme, c'est pas par 100 doses. Mais bon, c'était pour des essais ou pour des je ne sais quoi, et puis bon, bah, vous avez des gars qui récupéraient les quantités, je sais pas par quelle voie, mais moi je sais que j'ai vu un jour un copain qui rapplique avec un litre de LSD, il dit, je sais pas quoi faire de ça, quoi, hein. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il dit, ben écoute, bon, alors, donc, on se retranspose en Californie, donc il y a un prof de psycho qui donc, ben, a été initié assez vite au LSD, et puis a initié ses élèves, quoi, et donc a théorisé que ce LSD était fantastique, et que pour apprendre la psychologie, ben, il y avait des TP à faire, quoi, hein, bras aux pratiques, c'est-à-dire d'utiliser le LSD, la mescaline et tout le reste, pour au moins, enfin, pour une fois, comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passait chez les psychotiques, quoi. Et effectivement, bon, il y a beaucoup d'empathie, quoi, une fois que vous avez fait les tripes. Alors, bien entendu, la maréchaussée n'a pas entendu cette oreille-là, il était viré, quoi, hein, de l'université. Et donc, ben, à ce moment, il a trouvé que c'était tellement bien, et il tripait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein, ça. Et donc, et il est mort, je crois qu'il y a 4-5 ans, et il avait lui aussi 82 ans. Et il continue à publier. Et donc, là aussi, quand on vous dit qu'il y a Albert Hoffman et Tim Leary qui ont tripé, on peut dire presque tous les jours, et que leur cerveau est intact, parce que je pense que si vous publiez, c'est que quand même, vous avez des chances d'avoir quand même à peu près les yeux en face des trous. Ben, si la drogue détruit le cerveau, ben c'est sûrement pas le LSD qui en est responsable, quoi. Bon, voilà, je referme. Et donc, il était bien embêté parce qu'il pouvait plus faire du prosélytisme pour le LSD. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a dit, ben, je crée une nouvelle religion, et donc je deviens le pape de la religion du LSD. Et donc, comme aux États-Unis, on ne peut pas interdire une religion, ben donc du coup, alors bon, il avait beaucoup d'adeptes. Alors là, je peux vous dire, c'était bien avant le sida, et donc du coup, c'était peace and love, machin. Alors, ça a bien entendu beaucoup de répercussions sur Bâle, c'est la ville d'Albert Hoffman. Voilà, par exemple, pendant le carnaval... Hein, ah, pourquoi? Ben là, c'est psychédélique. Ah, ben ça, c'est nouveau. Ah, là là, il tripe complètement. Ah, ben alors ça, c'est meilleur. Ça. J'ai touché quelque chose. Les fils. Ah, mais voilà. Ah, voilà, oui. Alors, vous voyez là, donc le cas du docteur Leary. Bon, alors, c'est vrai qu'il est un petit peu... Il a quand même beaucoup de joints, quand même. Mais bon, voilà, c'est le carnaval. Quoi. Bon, alors, voilà Tim Leary, quand il est beaucoup plus âgé, hein, là, c'est-à-dire, bon, et ça vous donne une petite idée de sa coiffe. Et puis, bien sûr, le photographe ou le lui-même a déjà sa caméra et son appareil photo qui tripe. Et bien entendu, voilà, sur la Californie, ça vous donne un petit peu... Alors là, c'était les bus VV, hein, qui étaient vraiment repeints selon cette tradition, ou les Cadillacs. Et puis ensuite, c'est passé au Muro, et puis ensuite, les différents graphes, quoi, en gros. Quoi. Alors là, vous voyez, Agnès Varda et autres, quoi. Voilà, c'est l'art psychédélique. Et qui correspond en gros à ce que l'on voit par les tripes en quelque sorte. Alors là, là c'est pour un petit peu récapituler tout ce que je vous ai assommé comme, comme substance, là, voilà, un petit peu la dose de boostant les hallucinations. Donc voilà, l'armine, on va dire à peu près 500 mg, la mescaline 350, le DMT 60, puis 50, puis 30 pour le cannabis, vous vous rappelez, la psilocybine 10 mg, comme l'amphétamine. Et par contre, avec l'amide de l'acide lysergique, c'est 2 mg, et le LSD 25, 0,05 mg. Alors à ce moment, quand on fait le rapport entre le plus important et le plus faible, à ce moment, c'est un rapport de 1 à 10 000. Et qu'est-ce qu'on en conclut quand on est chimiste? Eh bien, ça veut dire, puisque la substance rentre dans le récepteur de la sérotonine, eh bien, ça veut dire que, bien sûr, il y a encore des transformations, il y a encore besoin d'enzymes, machin, pour remodifier une molécule endogène qui donne les hallucinations. Mais là, on est au plus près de ce qu'on peut, de ce qu'on a pu trouver. Et donc, là, on peut dire que le LSD 25 est vraiment le prototype de la substance endogène qui donne les hallucinations. C'est-à-dire, avec les autres, il faut faire plusieurs transformations. Et ce qui fait qu'on perd beaucoup de matériel. Tandis que le LSD, ben, c'est presque la molécule pure qui rentre dans le récepteur. Et donc, on est pas loin de ce qu'on cherche. On a trouvé à peu près ces quelques molécules qui sont suffisantes. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai donné tous ces chiffres, hein, parce que c'est quelque chose de très important pour pouvoir comprendre le mécanisme. Alors maintenant, rebondissons sur, bien sûr, ce que ça évoque, je l'ai déjà dit, c'est bien sûr les psychoses. Et ces psychoses, ben là aussi, comment on peut arriver à se représenter la psychose chez les patients? Alors bon, des fois ils guérissent, et puis d'autres même, qui entre deux crises, peuvent écrire, donc on se le représente, mais on ne le visualise pas. Eh bien, si, avec les peintres, c'est possible. Voilà, Louis Vine entre en psychose à 57 ans. Et lui, son trip, c'est de faire des autoportraits, mais des autoportraits de chats. Voilà, il se prend pour un chat et il décrit, il peint ses chats. Et donc, ben voilà, au fur et à mesure du développement de sa maladie, voilà, il va donner ses productions. Et donc, voilà, là, on voit que là, ça ressemble étrangement, de plus en plus férocement, à ce que l'on voit sous LSD 25, voilà, ou mescaline. Mescaline est plus doux que le LSD, mais plus progressif. Mais en gros, alors bien entendu, donc on sait à peu près que ces psychoses, en tout cas la schizophrénie, est plus ou moins tributaire des neuromédiateurs, et des neuromédiateurs dopamine, de préférence, j'y vais avec des gros sabots, mais en gros, si on devait réduire outranciellement, on dirait que c'est des monoamines, mais plutôt la dopamine est située plutôt dans les lobes préfrontaux. Et ben du coup, on a un outil qui permet de visualiser quelles sont les activités du cerveau au cours des hallucinations. Et voilà un exemple de... Alors, je sais pas si... Est-ce qu'on peut éteindre si, on peut, François, s'il te plaît? Parce que là, il faut que ça soit très contrasté. Donc, l'idée, c'est de faire une IRM fonctionnelle, et puis on prend un sujet, merci bien, on prend un sujet très particulier, c'est un sujet qui fait beaucoup d'hallucinations, qui est donc psychotique, hein, schizophrène, et il sent les forces venir, donc à un moment, et même il en fait presque en permanence, en gros, mais en tout cas il peut en parler, donc il peut décrire. Et donc, il est dans son caisson d'IRM, et puis ben, on fait les images, et voilà l'activité que ça vous donne. Alors, donc, ben, en gros, voilà l'activité, hein, plus c'est rouge et jaune, plus c'est actif. Et là, on s'aperçoit que sous toutes ces formes, là, voilà le côté gauche, le côté droit, dessous, et puis là, c'est la vision gauche, hein, en quelque sorte. Voilà, alors quand on regarde plus en détail sur les coupes, on voit qu'il y a une multitude d'endroits où l'activité est exacerbée, en quelque sorte. Et bien entendu, au fur et à mesure, il peut parler. Et donc on lui demande qu'est-ce qu'il ressent. Et bien, toutes les fois qu'il rentre dans ces bouffées délirantes, voilà, on a ce type d'image. Et là, en l'occurrence, pour cette image-là, il donne l'explication de ce qu'il a vu. Il est dans un véhicule et à un moment il a un accident et il perd la tête. Il a la tête coupée et cette tête continue à rouler en même temps que lui-même est dans la voiture à rouler à vive allure et la tête roule à la même vitesse que la voiture. Voilà, ça correspond. Voilà, son hallucination se retrouve sur les imageries cérébrales de ce patient, quoi. Alors là, ça laisse entendre que effectivement les neuromédiateurs s'affolent dans ces zones-là de façon inconsidérée, et que donc du coup on a cette molécule endogène qui est fabriquée par le cerveau qui est pas très très loin du LSD25 qui probablement enflamme un certain nombre de noyaux, de réseaux de neurones, et qui donc donne à l'esprit beaucoup de fil à retordre en disant ça doit avoir du sens. Alors quel sens peut-il avoir? C'est peut-être ma tête qui roule sur la route et puis qui va à la même vitesse que le véhicule. Voilà, alors peut-être, parce que c'est un peu long, mais les derniers développements, c'était à propos des grottes préhistoriques ornées en quelque sorte, et là il y a eu une interprétation qui a été donnée par Jean-Claude et puis Anne Salomon sur l'art rupestre en Afrique australe par exemple. Alors je vous donne les éléments. Donc ces grottes ornées de la préhistoire peut-être correspondent à un chamanisme. C'est-à-dire, la tradition veut que, en Afrique australe, il y a des mythes comme quoi ce sont des chamans qui auraient dessiné ces grottes. Les peintures peuvent être des mandalas, des pratiques chamaniques. Les visions sont en fait élémentaires, réinterprétées dans le modèle de civilisation qui correspond à ce que les personnes vivent, identification aux animaux anthropomorphes, comme des griffons, des sagittaires, des paons, proche des récits des personnes ayant échappé à la mort, ça c'est aussi une autre piste qui est en cours, et voilà, par exemple, un peu comment Jean-Claude expliquerait, il y a des éléments très, un premier stade, donc des perceptions élémentaires qui seraient réinterprétées secondairement et qui ensuite donnerait des formes anthropomorphes et qui donc correspondrait à un petit peu ces rituels chamaniques et qui permettrait de donner des mandalas pour pouvoir en quelque sorte faire ces rituels en somme et donc refaire ce qu'on a vu avec le psilocybès mexicanum. Alors peut-être, ça c'est juste des pistes pour réfléchir si peut-être on peut interpréter ces dessins et ces peintures. Voilà juste quelques ouvrages dont je me suis servi, ou en tout cas qui sont très importants, que je vous recommande. Donc c'est Albert Hoffman, LSD, mon enfant terrible, aux éditions du Lézard. Michel Monjose, la problématique alcoolique, pour ceux qui s'intéressent à un petit peu endiguer la difficulté. De même, Bernard Rueff, Les malades de l'alcool. Schulz et Hoffman, Les plantes des dieux, édition du Lézard toujours. Salomon Snyder, Les drogues et le cerveau, chez Belin. Et puis Daniel Vidlocher, Les psychotropes, une manière de penser le psychisme. Les empêcheurs de tourner en rond, de penser en rond, pardon. Pour aller voir un peu plus loin les bons auteurs, alors Balzac et tous ses copains, il y a une édition de 1001 nuits 1997, c'est un petit coffret avec 10 textes stupéfiants. Voilà, alors là c'est un bel échantillon. Je dois avoir un... Voilà, j'en ai un des 10. Hein, voilà. Alors, donc ça se lit très très bien, c'est savoureux. Là, bon, si j'avais du temps, je vous lirais Théophile Gautier et une soirée du club à Chichin. Aldous Huxley, Moxa, Les portes de la perception. Ernest Junger, Approche, drogue et ivresse, chez Folio. Tim Leary, Technique du chaos. Alors ça, c'est son dernier ouvrage, L'esprit frappeur, 2000. Et puis, un ouvrage extraordinaire sur l'expérience hallucinogène, c'est le groupe Mandala, qu'il a écrit en 69. Donc, il y a une vingtaine d'auteurs, des textes extraordinaires. Et puis, Henri Michaud, Connaissance par les gouffres, Misérable miracle, par exemple. Et puis, enfin, bon, bien sûr, c'est pas toujours aussi rose que ce que j'ai décrit, hein, je vous l'ai dit, j'ai pas caché. Il y a des difficultés, il y a des gens qui ont beaucoup de malaise et de souffrance. Ben, donc, quand il y a un problème comme ça, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de distinguer si c'est une psychose ou si c'est une crise d'adolescence. Alors bon, c'est pas pour l'alcool, hein. Pour l'alcool, bon, on sait que c'est difficile et que c'est une dépression, en fin de compte, et que donc il faut quand même y aller avec des pincettes. Mais là, pour ce qui est des hallucinogènes, donc il faut bien distinguer les deux états, psychose ou l'adolescence. Si c'est une psychose, là, il faut pas de quartier, il faut avoir affaire à un psychiatre. Là, faut aider la personne parce qu'elle est en grand danger. Si jamais c'est une crise d'adolescence, ben, je pense que les parents doivent renforcer le cadre familial en mettant peut-être des interdits, enfin, en les soulignant, mais en même temps sans dramatiser. C'est pas très facile, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. S'il y a toujours des difficultés, je crois qu'il faut que le parent ou les parents consultent un psychologue, hein, parce qu'il faut être dans une position tierce, c'est-à-dire, bon, dans notre jargon, c'est-à-dire position de père, en gros, c'est-à-dire mettre une loi, quoi, et puis deux ou trois barricades. C'est pas toujours facile à tenir. Et dans tous les cas, il faut absolument maintenir les liens avec l'adolescent pour pouvoir faire une alliance thérapeutique. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Ben voilà. Bon, si c'est possible d'avoir de la lumière à nouveau, s'il te plaît. Merci.